Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Il a laissé son nom dans l'histoire pour une sombre conspiration au cours de laquelle, avec d'autres, il a tenté de tuer le roi d'Angleterre en voulant faire exploser le palais de Westminster. Son visage est devenu le masque et même l'emblème du groupe de pirates des Anonymous. Je vous raconte maintenant celui dont on brûle chaque mois de novembre à travers l'Angleterre des mannequins de paille qui portent son nom, Guy Fawkes. Il y a des jours où l'histoire est à deux doigts de basculer et ce 5 novembre 1605 en fait indéniablement partie. Au petit matin, ce jour-là, des hommes de la garde du roi Jacques Ier d'Angleterre fouillent sans discontinuer le dédale souterrain de caves creusées sous le palais de Westminster où le Parlement doit se réunir dans l'après-midi. Il faut dire que quelques heures plus tôt, la patrouille est tombée sur un domestique barbu qui s'affairait près d'un énorme tas de fagots bien secs. Stocker du bois au début de l'hiver n'a rien de bien surprenant, mais tout de même, par précaution, le chef de la petite troupe décide de procéder à une seconde vérification. À l'aube, il retombe sur le même homme qui s'est chargé entre-temps. Il porte désormais un chapeau de cavalier, il a des éperons à ses bottes, un long manteau et une lanterne à la main. L'homme est immédiatement arrêté, fouillé, et dans ses poches, les hommes du roi trouvent de l'amadou, cette matière très inflammable, extraite de certains champignons, utilisée, comme dirait Johnny, pour allumer le feu. On déniche aussi des allumettes, ou plutôt des petites bûchettes semblables à celles qu'on place sous les bûches dans une cheminée. Et lorsque l'un des gardes a l'idée d'écarter les fagots, il recule brusquement. Caché derrière le bois sec, des dizaines de barils sont alignés contre le mur. Ce sont là pas moins de 36 petits tonneaux qui contiennent 670 kilos de poudre. Assez pour faire sauter le Parlement tout entier. Traîné dans une cellule, l'homme refuse de donner la moindre information, se bornant à prétendre qu'il s'appelle John Johnson. Mais l'enquête permet bien vite de déterminer sa véritable identité, Guy Fawkes. Elle met surtout en évidence une cabale qui, à quelques heures près, a bien failli réussir. La Gunpowder Plot, ou conspiration des poudres, un complot qui, s'il avait fonctionné, aurait envoyé le roi, sa famille, son entourage et toute la chambre des lords sous un immense tas de gravats. Un régicide donc, doublé d'un vaste massacre. Guy Fawkes, l'homme qu'on vient de prendre la main dans le sac, joue bien sûr un rôle central dans cette affaire, puisque c'est lui qui s'apprêtait à mettre, littéralement, le feu aux poudres. Mais l'ampleur de la conspiration dépasse largement cet ancien militaire de 36 ans, rompu à l'usage des explosifs. Tout a commencé 2 ans plus tôt, dans l'entourage de Robert Catesby, le véritable cerveau de la conspiration des poudres. Comme Guy Fawkes, Catesby est un catholique convaincu et même radical, ce qui n'est pas sans risque dans l'Angleterre du début du XVIIe siècle. Le royaume, qui s'était déjà éloigné de l'Église romaine au temps d'Henri VIII, n'a pas échappé aux conséquences de la réforme protestante qui déchire l'Europe depuis plusieurs décennies déjà. 30 ans auparavant, la France a connu la Saint-Barthélemy. L'Angleterre, elle, n'a pas atteint de tels niveaux de violence et de déchirement, mais la situation est particulièrement tendue depuis le règne d'Élisabeth Ière, à la fois dirigeante du royaume d'Angleterre et de son Église. Depuis 1559, si pratiquer les rites catholiques n'est pas interdit par le règlement élisabétain, acheter des livres catholiques constitue en revanche un crime de haute trahison et ne pas assister aux offices et services de l'Église anglicane est puni de lourdes amendes. Si certains nobles catholiques font profil bas, tous n'ont pas accepté ce nouveau carcan. Beaucoup pratiquent encore leur culte en privé et certains parmi les plus fervents en sont venus à penser que seul un régicide permettra le retour d'un souverain catholique sur le trône d'Angleterre. C'est le cas de Robert Catesby. L'idée d'un attentat travaille depuis longtemps déjà l'esprit de ce jeune trentenaire charismatique issu d'une noble famille des Midlands. L'arrivée sur le trône de Jacques Ier à la mort de la reine Élisabeth Ière en 1603 n'a rien changé. Après un début de règne qui a pu laisser espérer une forme d'apaisement, le nouveau souverain était très clair. L'Église catholique est bel et bien hors la loi et l'expulsion des jésuites d'Angleterre en février 1604 confirme le durcissement que redoutaient les catholiques. En quelques mois, le complot prend forme. Guy Fawkes, catholique converti qui revient du continent où il a combattu les protestants sur tous les champs de bataille possibles, fait partie du premier cercle des cinq conjurés qui, le 20 mai 1604, prête serment sur une Bible à la Duck and Drake Inn, autrement dit à l'auberge de la Canne et du Canard, et très vite, l'indéniable talent des cinq hommes fait merveille. Avec une remarquable discrétion, le petit groupe réussit non seulement à acheter, mais aussi à stocker une invraisemblable quantité de poudre dans une maison située à deux pas du Parlement de Westminster, avant de la transporter petit à petit dans les caves de l'immense bâtiment. Au fil des semaines, le petit cercle s'élargit. Au début du mois de novembre 1605, ce sont 13 personnes qui sont directement impliquées dans la conspiration des poudres. Ce qui ne va pas sans état d'âme. La destruction du palais de Westminster en pleine réunion du Parlement va provoquer la mort de plusieurs centaines de personnes, et toutes ne sont pas protestantes. Même s'ils ne pratiquent leur religion qu'en privé, une partie des lords reste catholique, et certains d'ailleurs occupent encore des places de choix dans l'entourage de Jacques Ier. Mais pour Robert Catesby, comme pour Guy Fawkes, la réponse est claire. S'il faut tuer quelques co-religionnaires pour réussir, eh bien, ils le feront. Et puis tant pis. L'objectif principal demeure, tuer Jacques Ier avant d'enlever sa fille Elisabeth, retirée à Coventry pour la placer sur le trône. Mais l'arrestation in extremis de Guy Fawkes sonne le glas de l'opération. Les hommes de la garde du roi Jacques Ier qui ont mis la main sur Guy Fawkes étaient sur les dents en même temps. Et ce n'est pas un hasard. Quelques jours plus tôt, l'un des comploteurs avait envoyé un courrier au baron de Monteagle, un lord de confession catholique. On y disait ceci: « Monseigneur, si vous chérissez votre vie, je vous supplie de trouver une excuse pour votre absence au Parlement. » Mais aussi catholique qu'il soit, le baron transmet la lettre au roi. D'abord sceptique, Jacques Ier finit par se demander si une attaque ne se prépare pas par quelques stratagèmes de poudre et de feu. La suite est l'histoire d'un sauve qui peut, qui ne sauvera personne. Torturé, Guy Fawkes finit par donner des noms. Robert Catesby et deux autres conjurés prennent la fuite mais sont abattus. Les autres sont arrêtés, condamnés au châtiment qu'on réserve aux traîtres. Le Hanged, Drowned and Quartered. Comme eux, Guy Fawkes doit être traîné au sol, puis à moitié pendu, émasculé et éventré. On peut alors le décapiter et le découper avant d'exposer les morceaux du cadavre à travers tout le royaume. Guy Fawkes va échapper à ce traitement sympathique. En janvier 1606, le jour de l'exécution, il parvient à sauter de l'échafaud, ce qui lui brise le cou. Ses camarades, eux, n'auront pas cette chance, pas plus qu'ils ne connaîtront l'étrange destin post-mortem qui attend Guy Fawkes. Élevé au rang d'épouvantail dans les contes populaires, Fawkes occupe une place de choix dans les festivités qui célèbrent l'échec de la conspiration des poudres. Depuis le XVIIe siècle, chaque 5 novembre, on brûle un mannequin de papier mâché et on chante la petite comptine que des générations de petits Anglais ont appris dans leur enfance. Remember, remember the 5th of November. Et le visage de Guy Fawkes est devenu le symbole d'un groupe d'activistes libertaires aux contours un peu flous.
We are anonymous. We are legion. United as one.
Oui, les Anonymous qui ont repris l'image d'un roman graphique d'Alan Moore. Dans V pour Vendetta, le pape de la BD britannique raconte la trajectoire d'un homme qui se lance dans une campagne impitoyable contre le pouvoir fasciste qui a pris le pouvoir dans une Angleterre imaginaire ruinée par la guerre. Quitte à utiliser les grands moyens en faisant précisément sauter le Parlement de Westminster, dissimulé sous un masque à l'effigie de Guy Fawkes. Un masque que l'adaptation au cinéma de V pour Vendetta a rendu célèbre et un étrange renversement symbolique pour celui qui voulait certes abattre un monarque, mais pas la monarchie.
Europe 1, historiquement vôtre.